à Moissac. Moissac. 90.7. 90.7.
Qu'est-ce qu'on déguste ? Vous est présenté par Vinovali, union des caves de Fronton, de Técou, des Côtes d'Olt et des vignerons de Rabastens. Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
Hola a todo el mundo. Ahora, el momento tanto esperado.
Qu'est-ce qu'on déguste ? Bonjour. Alors là, oui, tu as triché, Georges. Tu as fait le bruit du bouchon avec la bouche parce que aujourd'hui, justement, il n'y a pas de bruit de bouchon. Voilà, vous venez à l'instant de l'entendre parce que ça va être un bouchon tout à fait particulier. Ça va être comme un bouchon de carafe, un bouchon en verre sur un très joli flacon aussi en verre transparent et une très très belle série d'étiquettes pour un nouveau produit qui existe depuis peu sur Montauban, produit artisanal en circuit court. Et on n'a pas l'habitude de boire ces produits-là en circuit court et de façon artisanale comme ça, en tout cas pas moi. Et donc nous allons accueillir aujourd'hui Benoît Garcia de Bose Distillerie, la nouvelle distillerie montalbanaise. Et nous l'accueillons avec également Alexandre Barat. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour Benoît. Et pour vous accueillir, il y a Pascal Olivier avec qui on est déjà venu vous voir ce matin.
Salut à tous.
Georges Bonfils.
Bonsoir tout le monde.
Et Christophe Bory.
Bonsoir.
Un petit tour de table de ce qui va se passer dans cette émission.
Je vais revenir sur Blic Bassi. L'autre jour, je vous ai parlé de son concert qui avait lieu à Toulouse. Et il sort un roman aussi chez Gallimard. Et du coup, je l'ai lu cette semaine et je vous en parle. Ça s'appelle Le Moabi Cinéma. Donc, on ira faire un tour au Cameroun tout à l'heure.
Georges,
c'est toujours l'histoire du jazz. Et ce soir, ça sort le piano stride.
D'accord. Pascal ?
Bon, rien, on va parler du whisky français ?
Oui. Et puis, alors, ce que je vous propose, c'est pour rentrer en matière directement... Ah non, musique, pardon, c'est ça ? D'accord, on démarre en musique. Et puis, juste après la musique, on se retrouve par la magie des ondes avec Pascal Olivier devant l'alambic de Benoît Garcia, tout de suite. Que j'entends parler de fleurs de bière.
Une bière brune, une Imperial Stout en fait, une bière très noire et distillée.
Vous nous expliquerez ça tout à l'heure, ouais.
Sans le savoir, on peut retrouver ce... Au nez, on peut retrouver ces arômes, ouais.
Ça sent la mousse.
Ben, il a mousse, oui. Mousse de bière.
Le premier album de Fishback, un coup de maître, un univers à part, une belle voix, des mélodies entêtantes. À 25 ans juste, je lui promets une carrière brillante. C'est un album que j'écoute sans arrêt en ce moment. Une merveille pop, influencée pas mal par la variété années 80, mais d'une très grande originalité. Fishback.
Alors du coup, on est en train de trinquer pour la première fois de cette émission, et sans doute pas la dernière, avec cette fleur de bière que vous nous avez donnée à la dégustation et qui demande quelques explications. Moi, c'est la première fois que je goûte de la fleur de bière.
Eh bien, en fait, cette fleur de bière, c'est le fruit d'une Imperial Stout distillée. D'une Imperial Stout distillée, en fait, c'est une bière brune qui est assez houblonnée aussi. Et donc, en fait, de par la suite, qui pourrait être consommée en bouteille, ben, elle a été plutôt distillée. Pour concentrer rien que cet alcool et avoir moins de quantité de bière et plus de. Et garder toujours cette panelle organoleptique.
C'est une bière locale, du coup, c'était bien, non ?
C'est une bière qui a été faite en partenariat avec un collègue à moi qui est brasseur, qui fait de très très bonnes bières. En fait, c'est un brasseur du Tarn, c'est Brasserie Gilbert à Vertus. Je lui passe le bonjour, bien sûr, et en lui disant que, ben, voilà, en fait, cette bière, lui, il a déjà eu. Pas mal de prix national et donc on a décidé de la distiller ensemble, d'amener mon savoir-faire avec son savoir-faire et le combiner. Voilà.
Alors, d'où vient Benoît Garcia ? Qu'est-ce qui lui a donné l'idée de monter une distillerie, de l'appeler Bose et de l'installer à Montauban ? Eh bien, c'est ce que l'on va voir dans un instant, en tout cas pendant on a toute cette émission pour le voir. Je vous propose, par la magie des ondes, de nous transporter, Pascal et moi, un petit peu plus tôt dans la matinée, pour une petite rencontre devant, enfin directement, à la distillerie Bose.
Bonjour, on est là.
D'accord, je vais
voir ça. Pascal Olivier.
Bonjour.
Cédric, qui est à service civique à la radio. Voilà.
Donc là, on est devant la distillerie, hein, comme vous le voyez.
Ça, c'est, voilà.
Ça, c'est le bâtiment que j'ai tout construit moi-même, en fait.
Ah ouais.
J'ai tout fait tout seul, de A à Z. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun intervenant extérieur qui est arrivé ici.
Ça a pris combien de temps ?
Moi, ça m'a mis 8 mois pour tout faire.
Ça va, c'est rapide.
J'ai travaillé comme un acharné.
Mais vous avez fait que ça ?
J'ai fait que ça, oui, pendant 8 mois.
Ouais. Mais voilà.
Donc là, voilà, là, c'est la... La partie production du moût d'orge qui sert à faire le whisky. Je viens en fait envoyer mes graines concassées dans la cuve qui est ici, qui est une cuve d'emballage. Je la mets à une température bien donnée pour extraire le sucre en fait.
Comment ça passe de l'un à l'autre ?
À la main.
Ah ouais ?
Voilà, c'est-à-dire qu'on prend le seau et à la main je transvase.
D'accord.
C'est le manque de moyens, j'ai pas la pompe à moudre qui va bien.
L'eau et les graines concassées.
L'eau et les graines concassées sont ici en infusion.
D'accord.
Une fois que c'est infusé, en fait, je bascule dans cette cuve où je laisse poser tranquillement les graines concassées avec le jus pour que ça fasse une grosse couche filtrante. Je filtre le jus, je remets de l'eau chaude pour encore sortir les sucres, que je remets tout là-dedans.
Ça, c'est des anciens trucs de lait ou c'est...
Ce sont des tanks à lait, ouais, que j'ai retravaillé.
Ouais, d'accord.
L'opération, eh ben, elle est arrivée à son apogée. Je bascule dans la pièce d'à côté, là.
Donc, en fait, ici, une fois que le moule est arrivé donc, à sa conversion maximale du taux d'alcool, par cette vanne, je le transfère dans cette cuve, qui est la cuve de chaudière. Donc, la chaudière, une fois qu'on est arrivé en fait, à une température, ben, on fait chauffer. Les vapeurs d'alcool, elles, s'évaporent en premier. Une fois qu'elles sont évaporées, elles basculent dans ce col de cygne. Elles arrivent dans cette colonne. Donc j'essaie de faire un maintien de température entre 70 et 80 degrés. C'est là où est la température d'ébullition de l'alcool pur. Les vapeurs continuent à monter ici. Et elles arrivent dans cette cuve qui est la cuve de condensation. Et une fois arrivées ici, c'est le poisson nectar.
Et là, on est devant votre logo. Voilà. Vous pouvez expliquer votre logo ?
Ben, le logo, en fait, c'est le B de la société. Et le héron, en fait, je m'appelle Benoît Garcia. Et en fait, dans la mythologie, on va dire, ancienne, le symbole des Garcia, c'était un héron. Donc, j'ai voulu reprendre ce héron.
Alors, voilà, ça, c'était tôt ce matin. Hein. Enfin, tôt ce matin. dans la matinée. Vous nous avez fait visiter votre distillerie que vous avez construite de vos mains. Racontez-nous un petit peu quel est votre parcours, Benoît Garcia, d'où vous venez avant d'en arriver à la distillerie Baus.
Alors, déjà, j'arrive de. Enfin, je suis originaire de l'Hérault. Après, j'ai eu travaillé en fait par le biais de mon métier d'électrotechnicien dans des caves coopératives, des distilleries industrielles, où je faisais la mise en service et le câblage des machines de production. Par la suite, je suis monté sur Paris. J'ai fait encore la suite d'un parcours en fait dans le génie climatique. Après, je suis redescendu sur Toulouse. Parce que je ne pouvais plus vivre dans la capitale.
Ouais. Trop de trop.
Et donc en fait, une fois arrivé sur Toulouse, j'ai bossé dans le génie climatique où je faisais du réglage en fait d'installations frigorifiques et calorifiques, aéroliques dans des bâtiments comme le CNES, Airbus, des choses comme ça.
Mais alors quel rapport avec la distillerie et...
La mise au point, c'est la même chose. Quand on travaille avec des machines frigorifiques, on distille un gaz qu'on condense. Et on le redistille et on le recondense. Ce qui fait du chaud ou du froid en fonction des saisons. Et quand on règle bien des machines comme ça, on peut régler bien un alambic. Et après, la technique, c'est la même. Il y a des tables des vapeurs à respecter, il y a des températures, des temps, etc. etc.
D'accord. Alors ça, c'est pour la technique. Vous êtes un très bon technicien, donc vous vous dites, ça je sais faire. Mais enfin, il faut aimer quand même un peu.
Et après, il faut avoir la fibre. Oui. La fibre artistique que j'ai au fond de moi. Voilà.
Qu'est-ce qui a fait d'abord, vous êtes amateur de rhum ou de whisky ou de vodka ou...
En fait, je suis amateur un peu de tout, mais j'ai une préférence pour le whisky. Donc, en fait, mon but, c'était de créer une distillerie de whisky.
Mais ça vous est venu quand, cette idée?
Dans le berceau.
Voilà, ouais, à l'âge de 3 mois.
Non, sérieusement?
Non, sérieusement, ça fait 7 ans que j'avais envie de faire ça. Après, c'est très complexe de trouver un lieu qui veut bien accueillir une installation classée avec un domicile à côté. C'est assez compliqué, en sachant que maintenant, il y a plein de normes. Il y a des normes au niveau environnemental. Au niveau des voisins, à plein d'autres niveaux. Ça m'a mis pas mal de temps avant de trouver un endroit qui veut bien accueillir la distillerie, en sachant que j'ai écumé de Montauban jusqu'à Castelnaudary pour trouver un endroit ou un site qui veut bien m'accueillir.
Mais croyais, moi, qu'on pouvait pas être distillateur. Je croyais que c'était un truc qui se transmettait de père en fils, genre, et qu'après, on pouvait plus le faire.
Il y a confusion. Ça, c'est le privilège. C'est le privilège, en fait, c'était quelque chose qui était ancestral, qui se transmettait de père en fils, etc.
Si tu avais des vignes.
Si tu avais des vignes ou des arbres fruitiers, voilà. Et que tu pouvais faire distiller ta propre récolte, et on ne payait pas de contribution douanière en dessous des 1000 degrés. Maintenant, ça c'est fini, sauf certaines personnes qui ont encore ce privilège, et ils ont de la chance.
D'accord. Mais donc, n'importe qui peut devenir
distillateur professionnel.
Voilà. D'accord.
Ce n'est pas un boire de cru, parce qu'un boire de cru, c'est les personnes qui vont faire bouillir leurs propres fruits chez un distillateur professionnel.
D'accord, merci d'avoir dissipé cette confusion que je faisais. Donc, vous avez un métier qui rapporte bien, vous gagnez bien votre vie, tout va bien. Et en même temps, vous dites, ça y est, j'arrête tout ça, parce que moi, je veux faire distillateur, je veux faire ça, c'est ça, je monte ma boîte et je fais ça. C'est quand même un truc énorme de se lancer dans une aventure comme celle-là.
Ah oui, c'est énorme, et même ma femme, elle en a bien tremblé au départ.
Elle a dû se dire, mais il est fou, mais c'est pas possible. Parce qu'en plus, vous partez avec des plans sous le bras, voir un fabricant d'alambic. Un vieux monsieur qui est perdu quelque part dans
Dordogne.
Dans la Dordogne, c'est encore plus loin.
Saint-Amand-de-Colis.
Ça c'est loin.
Un dinandier meilleur ouvrier de France, et vous lui soumettez les plans de votre alambic et il vous le fabrique tout en cuivre martelé à la main, en fait.
C'est ça, fait traditionnellement, voilà.
Alors moi je suis en train de rincer.
Ça prend combien de temps
pas mélanger.
De partir de zéro et de
rincer.
Eh bien, en fait, on va dire que là, rien que une fois que j'ai eu le site d'accepter, en fait, pour le faire à Montauban, entre le moment où je suis arrivé, en fait, à mon domicile et le moment où j'ai commencé à pouvoir produire, ça m'a pris un an en étant acharné, de chez acharné.
D'accord.
En sachant que j'ai eu pour 6 mois de documents. de papier à fournir.
Oui, la paperasserie, c'est 6 mois. Après le reste.
Et après le reste, jusqu'en décembre, ça a été de l'acharnement de bâtisseur, on va dire. Voilà.
D'accord. Vous avez monté les terreaux.
D'où mon passé dans le bâtiment m'a permis d'arriver à faire tout ça tout seul.
Oui, voilà. Parce que vous avez fait tout seul, quoi. Voilà. Le bâtiment qu'on a visité ce matin.
C'est ça. Il y avait quand même une partie qui était existante, qui était en gros un genre de semi-hangar. Agricole de vétuste que j'ai tout retapé complètement. Voilà.
Donc après, donc là vous avez l'outil de production, mais maintenant il a fallu trouver du grain, du malt, du machin. Fait que ça se fait pas, on trouve pas ça sous le sabot d'un cheval quand même.
Et non, mais on en a plein autour de nous.
Ah oui, parce que c'est quand même des process. On prend pas le grain, on le met pas au-dessus de la bouteille, au-dessus d'un truc pour en faire. Non, il y a quand même un process. Comment ça se passe? Comment on fait?
Tout à fait. Donc en fait, il faut déjà commencer par bien travailler sa terre, y planter donc la semence d'orge.
Vous êtes producteur ?
Non, pas du tout. Je suis pas producteur. En fait, à ce moment, il y a un agriculteur sur Montauban qui est un de mes voisins qui me fait pousser l'orge pour être vraiment le plus proche possible de la société. Mais je vais revenir dessus un peu de temps. Donc, en fait, on plante notre orge. Une fois que l'orge a poussé, on la récolte, on la laisse un peu au repos. Une fois qu'elle s'est un peu reposée, on l'amène donc à un malteur qui est situé à Salvagnac. Ce malteur, lui, transforme en fait l'orge classique en malt. Et de la transformation de l'orge classique en malt, on humidifie avec de l'eau l'orge pendant 24 à 48 heures. Par la suite, on l'épure de toute son eau. On la met sur des aires en germination. Donc quand elle commence en fait à faire son cycle de germination, elle crée de la chaleur, et elle fait sa germination, et
Attendez, parce que là moi j'y suis plus du tout, je vous ai perdu quand on a parlé de malté. Malté déjà.
Malté c'est ça, c'est-à-dire on fait germer une graine.
Ah c'est ça, c'est faire germer.
Et on stoppe la germination pour en fait libérer l'amidon qui est à l'intérieur de la graine.
D'accord.
C'est-à-dire transformer la matière qu'il y a dans la graine en sucre.
Voilà, le but c'est de faire du sucre. Et pour faire du sucre, il faut faire germer la graine, mais il faut pas la faire pousser à 3 mètres de haut. Donc, on la fait à peine germer, et là, on la sèche.
C'est ça.
D'accord.
Et après, on la sèche à différentes températures, suivant ce que l'on veut obtenir. Par exemple, une bière brune, c'est une orge qui a été très torréfiée, très cuite.
D'accord.
Donc, on arrive sur des notes de caramel, chocolat, des choses comme ça. Et là, moi, je suis sur des orges qui sont très peu séchées.
Parce que ce dont je me suis rendu compte ce matin en allant vous visiter, c'est que finalement, pour faire de la vodka, du gin ou encore du whisky, ça part de la même plante. Et ça,
voilà, oui.
Ça part de la même chose. Finalement, on distille de la bière tout le temps, comme votre fleur de
non,
bière.
Non, en fait, ce n'est pas pareil. La bière, en fait, il y a du houblon en plus. Là, il n'y a que de l'orge. Ou que du blé, ou de l'orge et du blé. Ou du...
Ah, les fameuses single malt, c'est
voilà,
ça
un single dit. Malt, c'est qu'un seul malt. Et en fait, après, on peut partir dans plein de discussions, parce qu'il y a plein de single malt différents.
Donc, vous travaillez qu'avec l'orge.
Avec de l'orge et du blé.
Et du blé.
Et peut-être après, de la, du seigle. Ça, je suis pour parler, voir si je peux en avoir.
Parce que là, grosso modo, la vodka, ça se fait avec quoi?
Avec, là, c'est à base de blé.
Bon, le gin.
À base de blé, d'orge et de plein de plantes.
Le whisky.
Le whisky, peut être qu'à base d'orge, qu'à base de seigle. À base d'orge, de blé, de seigle, il peut avoir plein
on
de
peut faire des mélanges.
Voilà.
D'accord.
Mais la base, c'est du grain.
La base, c'est du grain, voilà.
Donc un whisky.
Pour le whisky, la base, c'est du grain.
Voilà, c'est une autre vie de grain. Qui est en pré-maturé sous
de grain. Attention, parce qu'on dit de grain, et non, on dit de malt. Ou de grain, et quand on dit de grain, c'est que la graine n'a pas été maltée.
Germée, d'accord. Voilà.
C'est l'heure du jazz, ce qui nous laisse le temps à chaque fois
de
faire une deuxième dégustation.
La suite.
Alors,
exact.
C'est dans un ordre précis que vous
tout
nous faites
fait,
les dégustations. Vous nous expliquez juste pourquoi, le temps de lancer.
Donc là, c'est une vodka de blé. Qui a été distillé 3 fois, et à la dernière distillation, j'y ai rajouté un houblon américain qui amène des notes de fruits tropicaux, type mangue, et assez floral.
D'accord, alors on déguste le jazz, et puis on en reparle après.
Je vais vous parler du piano stride. Piano stride est un style de jeu de piano qui est apparu à Harlem vers 1919. Il fut un usage au milieu de la première partie du XXe siècle. Héritier du ragtime, dont il tire ses bases, il utilise beaucoup plus d'improvisation et se base sur le rythme et le swing. C'est un style difficile à maîtriser. Il faut une bonne technique pianistique et une indépendance des deux mêmes. Il y a encore quelques spécialistes de cette façon de jouer qui se caractérisent par un jeu qu'on appelle la pompe, c'est-à-dire la main gauche alterne une basse sur le premier et le troisième temps et un accord sur le deuxième et quatrième temps. Stride, en fait, veut dire enjamber en anglais. Tandis que la main droite expose le thème ou improvise. Il se joue principalement en piano solo. Il perdure toujours comme tous les courants du jazz. Les spécialistes de cette musique étaient James P. Johnson, Willie The Lion Smith, Fats Waller, Art Tatum, Duke Ellington ou Count Basie ont pratiqué aussi ce style de musique au début de leur carrière. Là, nous écoutons le spécialiste Willie Smith The Lion dans Air Comes The Band.
C'est une fleur qui est très, c'est très amère.
Ça donne de l'amertume ou de l'aromatique. Il y a deux types de houblon, suivant le taux d'acide alpha que chacun contient.
Du houblon américain, comme truc local, c'est
mais ça, après, un houblon local,
il n'y en a pas.
On peut chercher loin.
Ça fait pas très local, quand même.
Non plus, non, mais bon. Là, toutes les bouteilles, il y a un beau nom en occitan, Alphéa.
Peut-être à l'amertume d'une bière, ça je peux le reconnaître. Après, il y a de la rondeur, pas d'agressivité, et une bonne longueur.
Willie Smith de Lyon, enregistré en 1969 pour le film L'Aventure du Jazz. Willie Smith de Lyon est venu dans les années 73-74 à Montauban. Il a joué au cinéma le Royal rue de la République. Et il avait toujours sa technique, malgré un âge assez avancé, il devait avoir près de 80 ans.
Assez canonique. Donc, qu'est-ce qu'on déguste aujourd'hui ? Nous recevons Benoît Garcia et Alexandre Barat de la distillerie Bose. Qu'est-ce que ça veut dire, Bose, Benoît ?
Excusez-moi. Bose, ça veut dire Brave Occitan Wild Spirit. L'esprit sauvage du courageux Occitan. Donné de l'anglo-saxon pour l'ouverture au monde, en parlant toujours de l'endroit où on est, l'Occitanie.
D'accord.
Et j'ai fait ce pari sur ce nom avant que la région s'appelle Occitanie.
Ouais.
C'est vrai. Et en plus.
C'est quand on se lance comme ça dans une entreprise pareille, il y a effectivement le savoir-faire, faire d'abord un bon produit, et vous avez choisi de faire dans l'excellence, si j'ai bien compris. Il y a aussi le marketing aussi qui va avec tout ça. Il a fallu apprendre sur le tas. Vous vous êtes entouré des bonnes personnes. Comment vous avez fait ?
Je suis entouré de moi-même et mes potes qui sont là-haut. Et parce qu'en fait, derrière aussi, j'ai un petit parcours atypique parce que j'ai fait pas mal de street art, du graffiti, la sculpture.
Ah bon ?
J'ai toujours ça à moi. Hein, je l'ai juste mis de côté. C'est en dormance.
Et donc, vous avez fait des graffitis sur les murs de Paris, quoi. C'est pour ça qu'il a fallu que vous partiez.
C'est ça un peu aussi, oui.
Non, c'est pas vrai.
Mais non, ça c'est un mythe, c'est pas vrai. Et donc, en fait, après, ben, je me suis dit, ben, je vais pas faire appel à un graphiste en sachant que je pourrais le faire de moi-même. Et puis que si c'est un graphiste, ça allait plaire peut-être aussi, mais moi, c'était vraiment mon entité totale sur la bouteille et tout ça.
D'accord. Donc, c'est surtout un lettrage, façon un petit peu...
Propagande, oui, si on veut.
Ouais. qui serait peint...
Peint au pochoir.
Au pochoir, quoi.
Hein, pour rappeler ce côté graffiti que j'avais avant.
Et en même temps, une bouteille très épurée, hein, puisque ça pourrait rappeler ces fameuses bouteilles d'eau. On a un packaging qui est pas sans rappeler. Aujourd'hui, il y a la bouteille d'eau. Tu sais que t'achètes 20 balles alors que ça coûte...
Des eaux minérales spéciales.
Non, mais c'est vrai.
Dans les épiceries fines.
Sinon, ils vendent des trucs...
Oui, du brouillard qui a été condensé... sur une montagne au Népal. Ouais.
C'est ça. Non, mais voilà, on est dans ce packaging très épuré.
Après, ça fait passer une bouteille de soda qui a été réutilisée, et surtout pour la vodka, le gin et le rhum, là, pour en fait faire passer un peu ce côté prohibition. C'est-à-dire que là, on a, c'est comme si on était arrivé avec une bouteille comme ça et qu'on l'avait fait remplir au... de l'alambic.
Voilà, à la pompe.
À la pompe. Direct. Vous écoutez, qu'est-ce qu'on déguste ? On est en train de justement déguster la vodka pour le moment de chez Bow's Distillery. On s'en fait encore une ou deux petites gorgées pendant les infos.
Qu'est-ce qu'on déguste avec Vinovali, cave de Fronton et des Côtes d'Olt. Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
Qu'est-ce qu'on déguste ? La suite. Alors, si vous prenez le train en marche, sachez que ce soir, notre invité, c'est Benoît Garcia. Vous l'avez pas encore beaucoup entendu, mais il est accompagné d'Alexandre Barat. Et tous deux nous présentent et nous font déguster les produits de Bow's Distillery. On a dégusté Alfea, c'est de la fleur de bière. On a dégusté de la vodka à l'instant. Là, hop, on rince avec un petit peu d'eau, merci. Et puis, du coup, on va passer au gin dans quelques instants.
Non, pas de suite.
Oh. Qu'est-ce qu'on va, à quoi on va passer ?
On va goûter au premier rhum, d'abord. Rhum occitan.
D'accord, le premier rhum.
C'est le seul
rhum
produit qui n'est pas endémique.
La canne à sucre, il y en a derrière chez lui.
D'accord. Au programme de cette prochaine demi-heure, un petit coup de fil à Jeff Manzi, le patron des arcades à Montauban, qui propose simplement des nouvelles petites planches avec de la charcuterie, du fromage, du pâté, des choses comme ça. Il va faire ça à partir de demain, tous les samedis midi, et il a une nouvelle carte des vins également, donc c'est la petite actu de la place nationale, donc on va lui passer un petit coup de fil d'ici là. On aura
ils font de la bonne cuisine familiale aux arcades.
Ouais, Jackie fait toujours la bonne cuisine. Et puis
on va aller au Cameroun avec Blik Bassi sur je vais revenir sur son premier roman Le Moabi Cinéma qui vient de sortir.
D'accord.
C'est très chouette.
Et puis voilà, on continue de faire connaissance avec Benoît Garcia, on écoute aussi de la musique.
Eh bien, on retourne à Fishback, c'est mon album, j'écoute sans arrêt en ce moment, donc j'ai décidé de passer deux morceaux de Fishback à cette chanteuse qui vient des Ardennes, 25 ans, un talent monstre.
Et Chin Chin alors, hop, pas de tout. Ouh, on commence à renverser son verre, parce qu'on lui dit.
Le rhum de Montauban.
Élaboré à base de mélasse, bio. Et puis distillé et réduit au degré d'alcool de consommation.
45 degrés.
Manière
chantait monter dans l'atmosphère. Un coup d'éclat, d'éclair, un coup de tonnerre. Droite, gauche, bras de fer. On se défend, mais t'as vu la gueule du sentiment qui nous retrouve. On ne se revoit pas. Et qu'ils avouent, j'ai jamais. On a traversé les déserts, les glaciers de l'Arctique. On laissait tête en l'air, nos mains se serrèrent à l'envers dans la panique. Hey, qui nous retrouve, on ne se rendra pas. Et qu'ils approuvent, j'ai jamais.
À ta merci, c'est le nom du premier album de Fishback que je vous recommande chaudement. Et tout ça donc à dégustant. Je pensais pas boire un jour un rhum montalbanais quand même, Rémi. Je trouvais ça vraiment
c'est étonnant. Et étonnant, alors voilà, il est très étonnant. On disait que c'était très très floral, que ça a explosé en bouche. Qu'est-ce que c'est en fait qui fait qu'il y a tous ces arômes qui viennent, parce qu'on n'est pas habitué quoi au rhum blanc d'habitude. On n'est pas habitué à ce qu'il y ait tout ça là qui se mélange.
C'est un rhum blanc en fait, et pour faire différent de ce que se fait dans les Antilles ou quoi que ce soit, c'est que là en fait c'est donc un rhum de mélasse que je détends avec de l'eau, et j'y amène en fait à un degré, on va dire de 5 à 6 degrés de volume d'alcool quand j'ai fini de le faire fermenter. Mais quand je le fais fermenter, je fais fermenter à température basse. Je suis en delà des 19 degrés, en deçà des 19 degrés. Mmh. Donc en fait, je suis entre 19 et 18. Et donc la fermentation est beaucoup plus longue. Sur un climat tropical, entre les 25 et 30, on en a pour 2-3 jours de fermentation et puis c'est fini. Là, je suis plus sur l'ordre de 6-7 jours de fermentation.
D'accord, et c'est ce qui dégage toutes ces saveurs.
Et donc on fait moins d'alcool supérieur, vu qu'on travaille plus bas au niveau des levures. Et après derrière, la distillation que je lui apporte grâce à cet alambic font une concentration de cette palette aromatique qu'on retrouve dans le produit.
D'où vous avez sorti cette recette?
De ma tête.
C'est vrai?
Oui, oui.
Vous n'êtes pas documenté, vous n'avez pas trouvé une vieille recette?
Si, je lis un peu ce qui se fait. J'essaie de faire des choses différentes, mais cohérentes quand même. Après, le goût y est, la structure y est, la rondeur elle est là, enfin, c'est quelque chose qui me convient très bien.
Ça c'est tout ce qu'on est en train de boire là, c'est votre première cuvée.
C'est ça, tout à fait, la première cuvée, la 001.
La 001. Pour investir là. Ouais, non mais c'est vrai, c'est la première fois.
C'est
vrai,
le collector.
Parce que là vous avez distillé quand?
Ça j'ai distillé donc entre le mois de fin décembre et le fin février.
C'est tout neuf?
Voilà, tout à fait, oui.
Même vous avez attendu d'avoir le prix, parce que vous avez eu un prix aussi.
Tout à fait, oui.
Au Grand
Montauban. Trophée de l'économie, oui.
Trophée de l'économie.
C'est là que j'ai découvert que la distillerie Bowes existait.
N'était plus un secret.
Ah ben voilà.
vous les avez fait boire avant, ou pour avoir le prix ou pas?
Eh ben non, en plus, ils ont fait un pari sur l'avenir.
Allez! Ils ont fait un pari sur l'avenir, je crois que c'est gagné, hein, parce que c'est pas mal, hein.
Voilà. Alors on revient à vous dans un instant parce que il en reste à déguster, mais on accueille par téléphone Jeff Manzi, patron des Arcades à Montauban. C'est grâce à lui qu'on peut éponger un petit peu ce soir, parce que j'y déjeunais à midi, comme j'y déjeune assez régulièrement, la cuisine de Jackie Monsieur, donc j'y retourne. Et il faisait tester à un de ses clients habituels cette planche de découpe là qu'on a posée là sur la table, avec un pâté, 2-3 morceaux de fromage, 2-3 morceaux de jambon, un peu de copa. Et il me dit, voilà, ça c'est à partir de demain ce qu'on pourra faire ici en buvant du vin le samedi midi aux Arcades. Et j'ai trouvé ça sympa, surtout qu'il a agrémenté, augmenté sa cave. Et, n'est-ce pas, Jeff? Salut.
Oh.
Ah, ouais, ou quoi?
Ouais, tranquille.
Bon, alors, au programme des samedis matins, maintenant, qu'est-ce qu'il va y avoir? Dis-moi.
Ouais, ben, à partir de demain, on met en place une nouvelle carte des vins avec quelques rouges, quelques vins secs, un blanc doux et deux rosés au choix. Donc, je vais te dire d'où ils viennent, tout ça. Et après, ce plateau de charcuterie que vous avez devant vous, je travaille avec une coopérative aveyronnaise. Et voilà, ils m'ont proposé certains produits. Je me suis dit, pourquoi pas, vu que j'avais une demande le vendredi soir pour les gens à terrasse, un peu à l'apéro, tranquille. Je me suis dit, pourquoi pas, et ça fait ça le vendredi soir et le samedi midi, quand il fait beau, plat national, au calme. Et voilà, donc je me suis dit, allez, feu. Et pour agrémenter tout ça, donc j'ai agrandi ma carte des vins. T'as pu voir sur le comptoir à midi quand t'es venu déjeuner, et voilà.
D'accord, alors qu'est-ce que t'as comme vin là maintenant, par exemple?
Maintenant, j'ai quatre sortes de rouges. Donc j'ai le Cunac, c'est le premier que j'ai rentré il y a quelques temps, qui est un vin de Gaillac. C'est un vin léger qui peut se boire frais l'été, donc qui est vraiment, plus de qualité-prix, c'est vraiment très très bien. Après j'ai un Bordeaux supérieur, ou Masterel. Et j'ai rentré un petit Saint-Loup aussi, et pour finir j'ai rentré aussi une Côte du Rhône, un vin bio, les Cotinets ça s'appelle, c'est sympathique.
Pascal, tu les connais, non?
Aucun. On vient d'en
le Pic Saint-Loup, tu connais le Pic Saint-Loup quand même, je te dis.
Oui, mais il y en a tenté plus des Pic Saint-Loup, il faut goûter.
Ouais, mais les Pic Saint-Loup, c'est, ça se fait, tout le monde en fait maintenant, mais bon, alors vu que j'avais une demande, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Voilà.
Bon, et ben écoute.
J'ai les deux blancs secs aussi qui sont pas mal, dont un, c'est la famille Laballe, c'est un Côte de Gascogne. Donc, qui est intéressant quand même. Et après, pareil, en Côte de Gascogne aussi, j'ai la demoiselle, plus pour les filles, c'est un blanc doux. Et après, j'ai deux rosés de Côte de Provence.
Oui, parce que Jeff, il fait toujours très attention aux demoiselles.
Ouais, ouais. C'est important.
Il veut qu'il y ait des filles dans son bar, donc il fait toujours des trucs. ça sera combien, la petite planche de charcuterie, là, d'apéro charcuterie fromage?
Ça va être un peu à la demande, ça veut dire un peu par rapport à la faim du client, s'il a beaucoup faim, pas trop. Ça peut varier entre 6 et 10 euros, si vraiment ils ont très faim. Tu vois, la plage que vous avez devant, on peut te la sortir à 10 euros. Je pense que qualité-prix, on est très bien. Pour 2-3 personnes, on peut imaginer. Je pense vraiment pour, comme ils disent maintenant, là, c'est très tendance, très à mode, les after-work. Le 18h, 20h, je pense qu'on est bien. Après, bien sûr, après, le truc, c'est de proposer quand même des vins de qualité pour accompagner tout ça. Ou autre, bien sûr, hein, le bon vieux Ricard.
Ouais, ça marche. Ou les shooters un peu plus tard. Allez, merci Jeff.
Pas les shooters, c'est plus tard dans la nuit. Tu sais, comme t'as testé, j'en ai 2-3 un peu coquins.
Des bons alcools de Boss Distillery, sinon.
Ouais.
Un de ces quatre, peut-être qu'on pourra boire, un rhum ou une vodka de Boss Distillery aux arcades chez Jeff, pourquoi pas.
Est-ce que vous avez déjà dit.
Bon. J'ai rentré 2-3 rhums pareils, très sympathiques.
Eh bien, peut-être qu'il faudra que tu t'intéresses au rhum local, maintenant.
Au rhum local, oui.
Allez, merci Jeff. À tout bientôt.
Attends, dédicace à faire passer.
Allez, vas-y.
Alors, je voudrais faire un petit rappel à mon ami Dylan, qui a pris un 6-1 au tennis. À sa belle-mère, c'est quand même assez compliqué pour lui. Il le vit très mal. Et je voudrais dire aussi à une personne que j'attends pour le restaurant. Voilà. Je vous embrasse, les gars.
C'était un message codé pour...
Qu'est-ce que c'est pour le resto? On n'a pas compris, il y a eu un Larsen.
Pardon?
Qu'est-ce que c'est le message pour le restaurant? Le deuxième message, c'est quoi?
Toujours sans réponse.
Et toujours sans réponse, voilà. Ah, donc, à bon entendeur, salut.
Allez, les gars, la piraterie n'est jamais finie. Non.
Pour l'instant, vous avez commencé à commercialiser vos produits ou c'est un...
Pour l'instant, oui, j'ai commencé à commercialiser par moi-même en faisant du porte-à-porte. Voilà.
On en trouve chez le particulier ou le...
Non, pas chez le particulier, j'ai pas encore le droit de le faire, ça c'est un peu interdit. Mais non, en allant voir des professionnels, là vous pouvez trouver mes produits à la cave de Simon.
Ouais.
Juste à côté, vous pouvez déguster un bon cocktail aussi au Saint-Jacques avec mes produits. Ainsi que...
Le gin,
notamment, non. Oui, le gin.
C'est le gin de tous, oui. Voilà.
Ah, de tous.
Tous. Ah, à chaque endroit, vous pouvez tout avoir. Et après, sinon, si vous allez avec quelqu'un
à l'hôtel des Capucins. Vous pouvez demander aussi à goûter un de mes produits.
Mais pourquoi tu dis que tu ne peux pas vendre aux particuliers?
Non, je peux vendre aux particuliers si je ne fais pas du porte-à-porte.
Ah voilà, oui, tu pourrais très bien te mettre sur les marchés.
Oui, c'est un peu compliqué quand même. Ouais, c'est un peu compliqué au niveau douanier.
Faut mesurer la rentabilité réelle, en fait.
Attention, Alexandre, on va faire connaissance
le directeur commercial.
Il faut faire attention sur les marchés.
Non, mais surtout, c'est qu'il faut sortir en fait les produits en douane et c'est un peu plus compliqué que ce que l'on croit.
On vend pas de.
Pourquoi c'est compliqué, Alexandre?
Pommes de terre. Là.
Comment ça? Pourquoi c'est compliqué? Ben, les marchés, en fait, faut mesurer la rentabilité réelle. Ben, il y a le coût. On est sur un produit qui est quand même noble. Les gens qui vont sur les marchés, en fait, en règle générale. Vont pas chercher des produits entre guillemets de qualité supérieure.
D'accord.
Tu vois, pas
tu
vrai.
Comprends ce que je veux dire.
Mais parce que
il y en a un oui. Qui a un salaire de qualité supérieure, ben, mais c'est du salaire.
On n'a pas.
Mais je suis pas.
Tu as
acheté une bouteille d'alcool sur un marché, toi?
Pourquoi pas? Oui.
On n'a pas.
Moi
encore.
Jamais, j'en ai jamais acheté une. Enfin, je prends mon propre exemple.
Peut-être qu'il y a personne qui vend.
Mais si on fait un tour de table, qui achète une bouteille d'alcool? Qui est allé acheter? A découvert un rhum sur un marché? A découvert un whisky? Personne.
On a besoin d'un conseil, d'un prescripteur pour ce genre de produit. On n'a pas parlé de prix, justement. On pourrait commencer à en parler de prix dans un instant. Vous allez tout savoir sur combien il faut débourser pour pouvoir déguster, comme on le fait en ce moment, du rhum, de la vodka ou encore du gin de chez Bose Distillery. À de suite. Ah, ben non, mais je sais pas, moi, sinon, j'en ai des disques, hein, à passer. Je voulais passer un Talisso.
On va passer un petit Linda de Souza.
On a un Talisco qui traîne par là, du dernier album.
En fait, non, mais il y a, franchement, honnêtement, les stands des marchés et tout, c'est cher, hein. C'est cher, hein. Un stand de marché, tu vas en avoir pour 2000 euros, prendre un stand.
Comment ça?
Pour l'année.
Ouais, mais pour les 10 ans,
c'est 30 balles le
matin. Même pas, je pense que c'est 12 euros le marché à Montauban.
12 euros le marché à Montauban?
Ouais.
Je sais pas, à regarder, à étudier, je sais pas. Faut regarder,
tu
sais pas trop pencher
là-dessus. Tu vas te faire connaître. All my suffering to make my face. When I'm far away, I forget. When I'd be far away, I'd
we'll be right back. Voilà, Talisco en concert au Rio Grande samedi soir à Montauban. Belle soirée pop puisque Talisco sur scène sera accompagné, enfin pas accompagné, mais il y aura un partage de la scène avec donc Rémi Parson et les Daniel's Child. C'est qu'est-ce qu'on déguste, messieurs, dames. Et Benoît Garcia, Alexandre Barra sont nos invités. On allait parler finance un petit peu parce que eh bien, vous avez décidé de faire un produit de qualité. Donc un produit qui a un coût, forcément. Et donc, parlons de ce coût, si vous le voulez bien.
Ben, en fait, au niveau.
Il faut parler dans le micro quand même.
Oui, tout à fait.
Les bouteilles sont hautes.
Voilà, c'est pour ça. Donc, en fait, au niveau du coût, on est situé entre 40 et 70 euros.
Il faut dire seulement.
Seulement. Voilà. Avec, par rapport à la qualité, seulement. Voilà. Pour ce prix.
Oui, mais alors, parce que ça veut rien dire. Parce qu'on parle de whisky, de vodka, de gin, de fleurs, de bière. Il y a de tout, là. Alors, on fait par ordre de dégustation, d'abord. Cette fameuse fleur de bière, si vous le voulez bien.
Oui.
C'est une petite bouteille. On ne sait plus. Donc, il ne sait plus. C'est pas très grave.
Je ne peux pas dire de bêtises.
Non, mais ça, c'est 50. Combien c'est ça, 50 centilitres.
50 centilitres, oui.
Donc, ça, c'est uniquement 50 centilitres.
Tout à fait, ouais. Je l'ai uniquement en 50 centilitres.
Et après, le reste, c'est.
Et le gin. En fait, celui-ci, comme c'était une collaboration, comme je vous expliquais, je l'ai fait en 50 centilitres parce qu'on a fait une quantité restreinte pour la première cuvée. Après, par la suite, je verrai. Et ceux qui vieillissent aussi, c'est en 50 centilitres pour l'instant. Parce que c'est un bon compromis au niveau, au niveau prix, on est moins que sur une 70. Ça permet de faire le pas et de commencer à goûter des produits
un peu plus élaborés,
et différents de ce qui se fait sur le marché. Voilà.
De la pâte, de votre pâte.
Voilà. Donc là, moi, ce que je vous proposerai, c'est de goûter éventuellement le petit gin élevé en barrique.
Le gin. Alors moi, je veux bien un petit peu d'eau. Le gin, la recette du gin, qu'est-ce que c'est exactement? Parce que
beaucoup de plantes.
On connaît tous le gin tonic qui nous aide à tenir jusqu'au bout de la nuit en discothèque. On connaît tous le gin, c'est quoi le
martini gin. Moi, j'ai plus du martini gin.
Non, ça c'était la vodka
gin tonic.
Oui.
Non, mais la vodka Red Bull.
Le Red Bull,
c'est comme ça. Attention, ne faisons pas de pub à des gens comme ça.
Non. Donc, qu'est-ce que c'est qu'il y a dans le... Ah oui, attends, on fait une parenthèse parce qu'on me fait signe à l'antenne en régie qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir à l'antenne. Qui est là? Qui est avec nous? Allô?
Oui, bonjour. Vous m'entendez ou pas?
Oui, on vous entend. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Vous êtes à l'antenne en direct.
Oui, bonjour, je m'appelle Emmanuel. Je suis négociant en vin. Et j'ai écouté le monsieur là précédemment là, sur les bouilleurs de... Enfin, les bouilleurs de cru. Il a eu mal à le dire, parce qu'apparemment, il ne savait pas le dire. J'étais un petit peu interloqué, là. Parce que j'ai l'impression que d'entendre tout et n'importe quoi.
J'écoute
régulièrement votre radio. Moi, je suis régulièrement sur votre radio. Je l'écoute régulièrement. J'habite dans le secteur. Hein. Moi, j'habite du côté de Dieupontal. Et je distribue du vin aux professionnels, notamment, sur votre belle région. Et j'ai entendu le monsieur qui était là à l'antenne, là, avec son gin, son je sais pas quoi, sa vodka. Je sais pas où il distribue, je sais pas très très bien ce qu'il fait d'ailleurs en réalité.
Et
apparemment le monsieur sait pas du tout de quoi il parle, quoi. J'étais un petit peu interloqué. C'est pour ça que je voulais intervenir.
Emmanuel, là c'est nous qui savons pas de quoi vous parlez.
On
comprend pas d'abord ni l'intervention super énervée. Moi je veux bien vous prendre à l'antenne, qu'on soit sympa, qu'on discute. Mais par contre, j'ai pas tellement envie qu'on se fasse agresser là, comme ça, un peu gratos. Donc on est tout oui, et vraiment avec beaucoup de bienveillance. Franchement, moi je suis allé visiter la distillerie de Benoît ce matin. Je goûte avec Pascal Olivier, Georges, Aurélien et Christophe ces produits depuis maintenant une petite heure à l'antenne, et je peux vous garantir que ce monsieur, il a l'air de savoir de quoi il parle.
Mais en fait, on n'a pas compris vraiment pas compris votre intervention. C'est quoi le problème en fait? Qu'est-ce qui vous dérange? On n'a pas compris sur les bouilleurs de cru. On n'a pas compris.
Non, ce qui me dérange, c'est. Je ne sais pas si on est en direct ou pas. D'ailleurs,
on est en direct, oui.
Oui, tout à fait. Mais ce qui me dérange, c'est que je n'interviens pas sur les produits, sur la qualité des produits. Bon, il n'y a absolument aucun souci. Mais par contre, j'entends des interventions d'une personne qui apparemment ne sait absolument pas de quoi elle parle.
Ah, mais ça dépend
de
quoi.
Mais par rapport à quoi vous savez pas.
Et puis ça dépend de qui vous parlez, parce que si vous parlez de cette personne qui là vous parle en ce moment, l'animateur de l'émission, alors oui, vous avez raison, parce que s'il y a bien un mec qui sait pas de quoi il parle ici, c'est moi. Et donc effectivement, quand à un moment
plusieurs heures par semaine,
quand on a eu cette intervention sur les bouilleurs de cru, c'est moi-même qui ai dit mais bouilleurs de cru, on n'a pas le droit de le faire parce que c'est un truc de père en fils. Si c'est à ça que vous, si c'est de ça que vous voulez parler, alors oui, mais à coup pas, pardon.
D'accord. Non, c'est pas du tout ça au niveau de la législation. Bon, après, vous pouvez donner les informations que vous avez envie au niveau des médias, au niveau de vos interventions, je veux dire, c'est pas...
Et vous savez quoi, Emmanuel? Voilà, non mais Emmanuel,
C'était pourquoi exactement? J'ai pas compris.
Ouais, mais là, on va pas faire le reste de l'émission là-dessus. Moi, ce que je retiens, Emmanuel, c'est que vous écoutez régulièrement CFM. Eh ben, j'en suis content. Et que vous êtes un auditeur attentif. Et ben, tant mieux.
Et je vous invite à venir faire une dégustation et qu'on discute à la distillerie.
Eh ben, voilà.
Bah écoutez, c'est extrêmement rare dans ma vie que j'intervienne sur une radio, enfin, si je peux le faire, mais parce que là, bon, c'est une radio locale, donc on peut peut-être le faire, sur une radio nationale c'est peut-être moins aisé, mais...
Ah vous avez ici, c'est facile, hein.
Mais c'est plus facile, oui, pardon.
Allez, merci.
Mais franchement, là, si je vous dis, j'ai été surpris, quoi.
Bon, vous finirez la conversation à la Beauce Distillerie.
Voilà.
Vous cherchez ça sur Google Maps, ça va vous y amener direct. C'est derrière la maison, c'est tout en gris. Et là, vous allez être ébloui et puis vous pourrez discuter.
Voilà.
Des malentendus.
Voilà.
Des malentendus.
D'un
bon verre.
Voilà.
Merci. Bon, on va faire ça comme ça. Bon, je vous souhaite une bonne soirée.
Bonne
soirée.
Merci. 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 Pareillement. Pareillement. Ah oui, mais c'est aussi ça, qu'est-ce qu'on déguste? On ouvre la porte, les gens peuvent s'asseoir autour de la table avec nous.
Je pense qu'ils savaient même pas où il allait, le monsieur.
Alors, un petit peu, c'est l'heure des infos. Donc,
c'est tout? Oui, déjà. On voulait savoir ce qu'il y avait dans le jean. On n'a jamais su.
On n'a jamais su, du coup,
ce qu'il y avait dans le jean. On n'a jamais su.
On n'a pas eu le temps.
Alors, ce qu'il y a dans le jean, c'est le teaser, c'est juste après les infos.
CFM. CFM.
Qu'est-ce qu'on déguste avec Vinovali, cave de Técou et des vignerons de Rabastens? Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
Qu'est-ce qu'on déguste? La suite. Alors, monsieur, dame, on en est au gin de la distillerie Beauce. Et ce gin, eh bien, il est tout à fait particulier. Ne vous attendez pas à un gin que vous pourriez boire en discothèque. Vous savez, dans ce fameux cocktail qui vous fait mener jusqu'au bout de la nuit, le fameux gin tonic avec du tonic et du gin à deux balles.
Ah bon?
Non, là, on est vraiment sur quelque chose. Même, ce serait presque au départ dommage d'y rajouter un quelconque produit, un quelconque tonic. C'est très, très, très aromatique. Des notes de poivre, même, très, très étonnamment, de genièvre. Évidemment, ce qui m'emmène à cette question que je vous ai posée tout à l'heure, mon cher Benoît Garcia, comment on fait le gin? Qu'est-ce qu'il y a dedans?
Le gin, il peut être fait de plein de façons différentes, comme je disais aux antennes tout à l'heure. Il peut être fait par macération courte, macération longue, en distillation uniquement, c'est-à-dire qu'on met les plantes directement dans l'alambic au moment de distiller. Là, moi, il est fait à base de macération à froid. C'est-à-dire que je mets mes botaniques, en fait...
Combien de plantes là-dedans?
23 plantes. Enfin, plantes, on va dire en plantes...
La base, c'est quoi? C'est de l'orge? La base, du blé. C'est quoi?
La base de l'alcool,
oui, c'est une base à base de blé, ouais.
Bon,
les plantes, c'est le genièvre.
La trame aromatique,
c'est le genièvre.
Voilà, la trame aromatique d'un gin, en fait, il y a genièvre, coriandre, et après, on part sur des racines. Racines d'iris, racines de plein d'autres racines. Je vais pas toutes les énumérer, sinon on va rester longtemps.
C'est ce qu'il y a dans le cachot, la jaunie.
Voilà, un peu, c'est ça. Il peut y avoir de la réglisse, des choses comme ça. Et après, chacun fait sa propre mixture aromatique. Et le fait macérer ou pas macérer, le distille ou pas. Moi, voilà, c'est macéré pendant 24 heures. Et au bout de ces 24 heures, je le passe dans l'alambic où je le distille. Une dernière fois. Et en extrayant toute cette palette aromatique, Une fois qu'il a distillé, je le mets un peu en dormance, fait, je le laisse reposer pour que cette structure se conforte. Et après, je le ramène au degré d'alcool de consommation. Enfin, d'abord, il est ramené à un degré d'alcool de barrique, parce que je le passe en barrique, celui-ci.
D'où la couleur ambrée.
Voilà.
Il n'y a pas de caramel là-dedans.
Il n'y a pas de caramel, c'est une couleur naturelle.
Il n'y a pas du sirop de bois.
Non,
pas du tout. Il n'y a pas des copeaux.
Il n'y a rien du tout.
Il n'y a pas des bâtons de bois.
Rien.
Il n'y a pas de la réglisse en poudre.
Rien.
Non plus.
Il y a de la cannelle.
Il y a quoi? Il n'y a rien.
Il n'y a rien, voilà. C'est ça qui est mieux.
Il y a de la cannelle. La cannelle.
Non, il n'y a pas de cannelle non plus.
Il n'y a pas de cannelle.
Il n'y a pas de cannelle dedans.
Et donc là, c'est redescendu à un degré de consommation de 45 degrés, monsieur.
Voilà.
C'est une boisson d'homme.
Non, ne soyons pas misogynes.
Donc, quand même,
les femmes aiment ça aussi.
Quelle est la clientèle quelle est la clientèle de ce type d'alcool?
Ça touche les femmes, justement, ça.
Hein. La clientèle, c'est que ça plaît un peu à tous ceux qui aiment les bonnes choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de clientèle bien spécifique. On va dire que les gens qui aiment un bon produit se retrouver autour de quelque chose qui raconte une histoire, ben là, ils sont servis.
Alors, ça s'appelle, quel est le nom? Dites-le, vous.
Bandarel. Bandarel, qui veut dire plante sauvage en occitan.
Tu déconnes.
Macarel.
Du mandarel. Donc, trois gouttes sur le gland, et puis c'est bon.
Et maman, elle est contente.
Tiens, le flacon de gin, là, il sera combien en cave, chez le caviste?
On sait pas.
Je sais pas, j'ai pas demandé au caviste combien il sortait. Que vous alliez le voir.
Non, mais on est uniquement 500 ml, enfin 50 centimes.
500 ml ou plus si vous me demandez une commande spéciale, mais sinon, non, c'est à conditionner à 500 ml.
Sinon, on peut venir avec son bidon, 5 litres.
Non, voilà.
Le carnet de chèque aussi.
Voilà. Tout est possible, c'est qu'une question de prix.
D'accord, mais bon.
On peut ramener les fruits et carrément les distiller aussi, hein.
Alors, vous faites ça, non? Vous faites pas de distillation à façon?
Non, je fais pas de distillation à façon, même si on me l'a demandé. C'est pas dans mon envie du moment. Je veux développer ma gamme. Je veux vraiment faire quelque chose qui me tient à cœur à moi spécialement. Je veux bien développer ma gamme, me conforter déjà dans ce que j'ai fait. Et je veux pas me divertir avec d'autres.
Parce que vous avez quand même la Rolls, c'est d'alambic, quoi.
La Rolls, je sais pas, il y en a des Rolls, il y en a partout. C'est une.
C'est une Rolls.
Une parmi tant d'autres.
C'est vous qui l'avez dessiné, cet alambic.
C'est un alambic. Voilà, en fait, c'est dessiner la trame de l'alambic du dessin est une trame qui existait déjà. Je sais pas, inventeur ni quoi que ce soit. C'est qu'en fait, à l'intérieur de la colonne, j'ai essayé d'associer, en fait, trois systèmes qui se faisaient sur des alambics qui datent, en fait, de deux siècles en arrière. C'était, en fait, les personnes qui ont commencé à développer, en fait, ce qui était la colonne de rectification, en les nommant, en fait, ces personnes, c'est Ergo, De Roy et Guillaume, qui ont été des bons précurseurs dans ce système. Et donc, j'ai essayé d'associer le meilleur des trois dans mon alambic.
Et ce qui fait
cet alcool avec ce caractère-là.
Faites-vous partie de la Fédération du Whisky de France?
Tout à fait.
Ah, donc c'est une fédération qui a été créée il y a récemment
hein,
en janvier 2016, donc il y a un peu plus d'un an, et qui est une fédération qui regroupe une quarantaine de distilleries, parce que, 200, 300 ans ou 400 ans après l'Écosse, la France se met à produire du whisky, et de plus en plus, et selon Slate, j'ai lu un article tout à l'heure, et Slate dit... Bientôt, le whisky français sera le meilleur du monde. Alors là, on n'en a pas, parce qu'on en a goûté ce matin.
On est les meilleurs barriques,
mais il n'est pas en bouteille, parce que c'est dans 3 ans, simplement. Donc, c'est quand même, faut se tenir le truc sur...
C'est minimum 3 ans, c'est ça?
Minimum 3 ans pour avoir l'appellation whisky. D'accord. Et après, il y a plein de normes qui se sont rajoutées, imprégnantes au bon terroir français.
Et vous comptez le vendre à partir de son 3 ans d'âge, ou bien il faut vous attendre 6 ans, 10 ans, 15 ans, est-ce que c'est un placement pour vos vieux jours?
C'est un placement pour mes vieux jours, je sais pas hein, si on va y arriver aux vieux jours déjà.
Mais avec
ce bon alcool, avec un alambic, ça va nous conserver.
L'alcool conserve les fruits et la fumée les viandes.
Donc, je vendrai une partie dans les 3 ans, oui. Et après, j'essaierai de faire vieillir un maximum de quantité pour le voir évoluer.
Alors aujourd'hui, on a beaucoup de micro-distilleries, comme il y en a eu la vague des micro-brasseries. On a des micro-distilleries de whisky. Il y en a un petit peu partout en France. Il y en a en Bretagne qui a été les précurseurs. Hein. Le premier whisky français a été distillé en 1983 par les Bretons de Waregem. Aujourd'hui, on en a aussi en Alsace.
En Corse, je
l'ai goûté. En Alsace, en Lorraine, aux Élieurs, qui est très très bon. Dans le Jura, où ils le mettent à vieillir dans des tonneaux de vin jaune. Donc ça doit être assez extraordinaire. Dans la vallée du Rhône, on le met dans des tonneaux de Condrieu. On en trouve en Corse, on en trouve dans le Tarn, la distillerie Castan, ouais. Villeneuve-sur-Vert. Et aujourd'hui, donc, ça fait une quarantaine.
Il y en a deux dans le Tarn. Il y en a même un qui est pas très connu, à la qui Montagne est un peu plus à l'issue du Tarn aussi. Non.
Le Black Mountain.
Ouais, c'est ça.
Le Black Mountain. Ah, c'est pas bon. C'est pas bon.
N'en parlez pas. C'est pas des whisky français.
Donc aujourd'hui, une quarantaine de distilleries de Malte. Et donc, c'est en train de prendre. Et, pourquoi on a pris autant de retard par rapport à l'Écosse, c'est qu'un, c'était pas culturel chez nous, l'alcool de grain vieillit sous bois, on a préféré faire des alcools de fruits, donc les cognacs, les armagnacs, et puis après les alcools de fruits, type Mirabel, type, enfin, tout ce qui peut se dire, voilà, etc., etc. Mais l'alcool de grain a été jusqu'à très récemment, pratiquement méconnu, et là, les Français s'y intéressent.
Ce n'était pas méconnu, c'était, des alcools les plus consommés en France.
Oui, donc, mais on l'achetait parce que Pernod Ricard, par exemple, pour ne citer que lui, possède 14 ou 15 distilleries, de Malte en Écosse. Donc, bon, effectivement, le whisky, ça se boit partout. Le bon whisky, c'est déjà plus rare, et le très, très bon whisky, et le whisky français, c'est encore plus rare. C'est encore plus rare. Mais on a affaire, alors, souvent à des whisky de créateurs, hein, type de ce que tu fais, parce que ton rhum, c'est pas un rhum que tu vas trouver n'importe où. La vodka, pareil. Donc, ce sont souvent des alcools de créateurs qui sont créés par des passionnés qui se sont mis et qui se sont investis là-dedans. Et je pense que peut-être le futur du whisky, hors Écosse, c'est peut-être ici.
Tout à fait.
Qu'est-ce que tu en penses?
Mais j'en pense que c'est sûr.
Tu as des contacts avec tes confrères, tes collègues?
Pas spécialement. On se retrouve tous ensemble le 22 de ce mois-ci à Paris pour discuter de plein de choses autour du whisky de France.
Vous faites goûter?
Oui.
Chacun amène ses productions.
Je sais pas si ça se fera cette fois-là, mais ça, c'est sûr que ça va se faire et ça se fera. Et puis au moins on peut discuter, on peut échanger des problématiques, etc. Donc on va se retrouver et on va parler déjà de ce qui est la norme qui a été pondue par l'Europe et etc. Enfin de choses diverses et variées qui nous concernent.
Est-ce que le whisky?
Ah non, mon petit.
Ah, j'avais pas vu que tu l'avais.
Ah bah oui, mon petit ami. De temps en temps, il faut écouter du jazz dans cette émission.
Ah bon? Toi
qui es un fan de jazz, aime bien de temps en temps écouter du jazz. Oui. Or, je continue toujours sur le piano stride, qui a ouvert la voie au swing et au piano moderne. Thelonious Monk ou Herbie Hancock utilisent cette fameuse pompe dans pas mal de morceaux et dans leurs soli. Les pianistes stride jouaient principalement dans les clubs, mais aussi notre prestation était les house rent parties, sorte de soirée privée qui permettait aux locataires démunis de collecter de l'argent de leur loyer en organisant des fêtes à domicile. C'est-à-dire, une fois le pianiste et les boissons payées, il leur restait l'argent pour régler leur loyer. Et bon, souvent il y avait des problèmes avec les voisins qui envoyaient la police. Bon, c'était assez folklore. Mais le stride a toujours perduré, il y a toujours des spécialistes. En France, on avait un très très bon pianiste jazz décédé en 1992, très jeune, c'était François Rilac. Et là, nous l'écoutons dans une composition de Jampy Johnson, qui était un des précurseurs du stride, dans un titre qui s'appelle « The Mule Walk ».
Et il nous reste quoi à distiller?
Le classic gin.
On avait le supérieur.
Thank you.
Un nez fumé.
Bon.
Alors, c'est le verre, mais je le sens.
C'est la viande, mais c'est vieille.
Non, mais c'est vrai, il a raison, je trouve qu'il y a un petit côté fumé.
Il y a encore un côté fumé.
Mais je sais pas si c'est fumé ou si c'est herbeux, tu sais, herbeux.
Herbe sèche.
Non, la
fumée, moi, je vois fumé. Il faut comme pas ça pique, pour arriver à lui faire dire que dans le pâté, c'est pas. Ça pique. Non, ça pique. C'est fumé, ça.
Ah, ça reste très, très, très floral, tout ça. Et pourquoi celui-ci, il est blanc? Pourquoi il reste blanc alors que celui-ci...
Celui-là, il est élevé dans une barrique de vin de fraise. C'est la barrique qui lui donne sa couleur.
Pardon.
Et celui-ci, il est élevé en barrique inox, donc il n'a plus de couleur.
Ouais, l'inox, il n'a pas de couleur. Pas trop, ouais.
C'est pour ça qu'en fait, les alcools blancs, ils sont souvent... un cuvinox pour garder leur couleur.
C'est pas
ça
qu'on a goûté ce matin que
non,
je t'ai dit.
Non, ce que vous avez goûté, c'est le whisky.
Non, c'est le whisky.
Et le rhum en barrique.
D'accord.
En fût de vin de fraise.
Parce que là, on retrouve. J'ai pas du tout retrouvé la fraise.
Non, parce
fraise,
que là, en fait,
ce matin, il y a beaucoup de fraises.
Il y a beaucoup de botanique, là, en fait.
Non, mais parce que t'es au-dessus de la barrique. Tu sens la fraise de la barrique, en fait. Que là, tu la retrouves pas parce que l'alcool est sorti de la barrique. C'est pour ça que tu as cette odeur de fraise que là, tu sens pas. Et c'est ce qui lui apporte cette structure un peu complexe, en fait. C'est d'être élevé dans cette barrique.
Mmh. D'accord. Et celui-ci, donc?
Celui-ci est juste avec distillé avec donc pareil par macération, ça a vu d'ajouter, etc.
C'est la même recette que
l'autre.
C'est pas la même, parce qu'on en a 23 et là, on en a 14 ouais. botaniques.
Et là, pourquoi?
Et après, c'est mon inspiration.
Parce que là, c'est toi qui veux ça.
Voilà, c'est en fait quand je suis. Je mets toutes mes herbes aromatiques autour de moi et je les prends, je les croque, je me dis, ah, je mettrai un peu de ça, un peu de ci, un peu de là. Et après, oui. Comme chaque. On va dire, dans les plantes, il y a des familles de plantes. Il y a des plantes qui sont plus dans les côtés camphrémentolés, des plantes qui sont plus dans les côtés boisés, des plantes qui sont plus dans les côtés terreux, etc. etc. Et donc,
tu as l'idée de ce que ça va devenir plus tard, comme un créateur de parfum, par exemple.
C'est. En fait, on a une idée de départ. Mais moi, j'ai pas assez d'expérience et de recul. Ouais. Je suis pas un vieux. Hein.
Mais t'as fait une formation pour ça ou
t'es non, c'est vraiment complet. C'est que de l'autodidacte complet. Je vais vraiment sur des choses qui me touchent, qui m'apportent une sensibilité, que je me dis que dans la composition derrière, on va avoir un assemblage qui va être intéressant. Ça m'est arrivé de faire une vodka avec une plante que quand on la sent, quand on la goûte en infusion avec de l'eau, c'est super bon. Et quand je l'ai distillé, ben ça me plaisait pas du tout. Donc en fait, il y a des choses qu'il faut revoir. Et voilà, c'est ça. Si je me remets pas en question toute ma vie, je préfère arrêter mon métier aujourd'hui.
Alors, est-ce que quand ça coule à l'alambic, tu dis j'ai réussi et là t'es
en fait, on peut pas dire ça parce qu'en fait, tout au long de la distillation, tout au long de la distillation du cœur, en fait, il y a une évolution. Ouais. Et à chaque degré, il y a des étapes et des arômes qui sortent. Et c'est en fait quand on laisse reposer cet ensemble, qu'on le laisse se structurer, qu'on arrive sur quelque chose qui va être fini. Et là, on va pouvoir dire, on a réussi ou on n'a pas réussi.
Ouais, ça me plaît ou ça me plaît pas.
En sachant qu'au départ, déjà, on commence à avoir une trame qui se dessine bien. Parce que la qualité du produit était...
Donc faire un alcool, c'est comme faire un parfum. C'est-à-dire, on a une palette, on a des goûts plutôt que des couleurs. On a même des couleurs. Et puis, on assemble ça et on essaye d'imaginer ce que ça donnera à la fin.
Tout à fait.
Et on peut se casser la gueule.
C'est des esters, tous les deux.
En dégustant un bon verre de gin de notre ami, eh bien vous pouvez lire,
bien sûr.
Et je vous ai parlé lors de la dernière émission du concert de Blic Bassi à Toulouse, c'était la salle Nogaro, un très beau concert. Eh bien Blic Bassi l'écrit aussi, il vient de sortir son premier livre, Le Bluesman Camerounais, publié chez Gallimard, le Moabi Cinéma, un bijou de roman. Le premier point important, c'est la particularité principale du roman de Blic Bassi, ça tient à l'usage du camfranglais. C'est un mélange de français, d'anglais et des 260 langues du Cameroun, 260 langages pour 260 tribus bien sûr. Le sujet ensuite, une bande de 5 potes rêve d'Occident et tente par tous les moyens d'obtenir chacun leur visa. En attendant de décrocher le précieux sésame, ils glandent au programme bière, fumette, drague, foot. C'est une chronique d'une jeunesse africaine sacrifiée. Le Moabi Cinéma tente d'alerter sur les rêves d'Occident à l'heure où des milliers de jeunes Africains choisissent de quitter l'Afrique au péril de leur vie. C'est donc un roman d'actualité. Et l'humour est omniprésent, avec par exemple ce petit passage sur Obama, car Obama est un nom banal à Yaoundé, mais après le triomphe de Barack Hussein à la présidence des États-Unis, on aurait pu croire à la ferveur nouvelle qui entourait les Obama au Cameroun, que ces gens-là étaient tous de la famille du président des États-Unis. C'est un excellent premier roman signé Blic Bassi, aussi bon chanteur, original, qu'écrivain.
Un petit extrait ?
Éventuellement, ouais.
Mais ça parle pas d'Obama, là. Hein.
Ah non, mais là, c'était un petit extrait.
D'accord. Après... Avec eux, en les écoutant, nous étions vraiment persuadés que nombre de nos compatriotes qui vivaient en Occident et qui revenaient au pays pendant les vacances étaient des privilégiés. Ils frimaient, mais nous pensions que lorsque notre tour viendrait, notre lumière serait plus forte, que nous brillerions plus que des centrales électriques. Les années s'écoulant, scotchés que nous étions chez Molo le barman, nous assistions maintenant avec plus de rage au débarquement des immigrés de retour au pays. Quand commençait la saison des pluies et des orages, ils tombaient des avions comme des essaims de guêpes, et ces guêpes nous piquaient, nous ratatinaient, nous expulsaient des regards des autres pour les monopoliser à leur profit. C'était chiant, c'était la relégation en division inférieure. Ils étaient les Mbenguistes. Ils avaient droit à tout et nous aux miettes qu'ils voulaient bien nous jeter.
Premier roman de Big Bassi, c'est sorti chez Gallimard dans la collection Continent Noir, Big Bassi. Très bon premier roman.
Tu me trouveras la signification de Mbenguiste, du coup. Mbenguiste.
C'est lui.
Mbenguiste, hein? Édition
Gallimard.
Gallimard.
Collection Continent. Attention. Oui, c'est un bluesman. On l'écoute là derrière. Big Bassi.
Benoît Garcia, où vous êtes dans 10 ans avec la distillerie Bowse?
Où je serai?
Ouais.
Ah ben là, c'est vraiment bien loin pour moi. Déjà, je suis tellement dans une action à court terme que...
Par contre, on n'a pas parlé du crowdfunding.
Oui.
Vous êtes en pleine opération de crowdfunding.
Tout à fait, ouais, je suis en fin, même en fin de crowdfunding. Là,
de recherche de financement.
De recherche de financement participatif, en voyant que ben, ça n'a pas vraiment fait cet effet boule de neige et escompté.
C'est
pas fini.
Je
cherchais en fait 10 000 euros avec en incluant en fait la commission que prend le site internet pour acheter une étiqueteuse et une embouteilleuse. Comme vous m'avez vu ce matin, en fait, c'est assez complexe pour moi à l'heure actuelle. Et puis j'ai tellement mis tout mon cœur et mes économies dans ce projet. Je fais l'effort de faire tout vraiment artisanalement. Mon but est c'était de aussi en faire en gros un côté publicitaire au niveau national, même local. C'est les gens qui investissaient se retrouvaient forcément gagnants parce que c'est comme s'ils avaient presque le prix du hors taxe en cadeau quoi.
Mmh. Donc là, sur 10 000 euros recherchés, aujourd'hui il y en a combien qui sont rentrés dans la poche?
Il y en a pour 20% juste.
2 000 ouais, 2 000 et quelques.
Oh, c'est pas la chose.
Alors sachant que l'idée donc en fait de cette campagne de crowdfunding, c'est que l'argent que les gens vous donnent, vous leur donnez des bouteilles moins chères, c'est ça hein,
c'est
gros.
Ça en fait, voilà, en gros ça faisait un fond 30 à 40% en fait on va dire que la première cuvée était presque destinée pour ce crowdfunding là, ce financement participatif, en sachant que voilà les fonds que je rentrais vont me permettre d'acheter les machines pour me faciliter les choses, et en sachant que les meilleurs commerciaux qu'il y a autour de nous, ce sont les gens eux-mêmes, en goûtant un produit auquel ils ont participé, qui peuvent le faire découvrir à leur cercle, mais en fait ça agrandit en fait la communication, et c'était le but en fait escompté, c'était pas pour faire de l'argent proprement dit, c'était pour vraiment
Ça n'a pas marché.
Il faisait participer. Enfin,
c'est pas fini.
Qu'il est fini.
Ah non, pas du tout. Il reste encore 10 jours. Vous avez 10 jours.
On va laisser
8 000 balles. On va laisser Alexandre nous parler du crowdfunding. Le petit appel aux auditeurs pour le crowdfunding, c'est quoi?
Il reste 10 jours pour le financement participatif. Il y a un gros avantage à participer à ça parce qu'on est sur des remises aux alentours de 50 à 60%. Donc ça vaut vraiment le coup. En plus, c'est la cuvée numéro 1.
On
peut directement aller sur le site
de Mimosa.
Sur le site de Mimosa, directement sur la page Facebook, on va retrouver le lien sur la page de Bowse Distillerie. On va retrouver le lien de Mimosa.
Il y a un ticket d'entrée
à
15 euros. Oui,
15 euros le ticket d'entrée. Si les gens ils achètent pour 15 euros, ils auront 15% de réduction.
En gros, c'est comme ça. C'est, tu mets 10 euros sur la table, on t'en offre 5. En gros, c'est
à peu près
ça.
Ça vaut
vraiment le coup.
Je vous le dis les gars, si vous voulez goûter des trucs qui sont vraiment vraiment bons, qui sortent de l'ordinaire et qui sont locaux, il faut goûter ça. Hein.
Ouais.
Pour
c'est pas grand chose.
B-O-W-S.
Ah, bah surtout là, ouais, sur le crossfunding, ça vaut vraiment le coup. Franchement, c'est un investissement. Et puis si on aime les bons produits, ouais.
B-O-W-S. WS, rappelez-nous, B-O-W-S, c'est.
Brave Occitan Wild Spirit.
Merci, Benoît Garcia. Merci, Alexandre Barat, d'être venu nous présenter ici aujourd'hui la distillerie Bose, distillerie montalbanaise en circuit court.
Et bravo.
Et bravo.
Et
bravo.
Et les drèches, on n'en a pas parlé, je voulais en parler, excusez-moi, mais les drèches sont redonnées aux paysans pour nourrir ses vaches.
Voilà, les drèches, c'est les résidus de.
C'est les résidus de distillation.
De brassage.
D'accord. Le brassage, oui.
Merci messieurs, merci à Jeff de nous avoir régalé aussi avec son nouveau plateau que vous pouvez trouver.
On va se
retirer
les oreilles
pour
Emmanuel.
Allez, salut.
Bon week-end.
Au revoir.
Et le cross-funding, ouais, c'est.